Vous écoutez RTL.
Bon week-end à tous, merci de nous écouter. RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Vincent Parisot, Christelle Robière.
Bonjour à toutes et à tous, et bien c'est parti. RTL midi, une heure et demie d'infos avec vous pour réagir, pour commenter l'actualité avec vos témoignages au 32-10. Bonjour Christelle.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et on vous attend notamment si la multiplication des panneaux publicitaires à l'entrée des villes vous énerve, ou si vous estimez que c'est une pollution visuelle et, pour dire les choses simplement, que c'est moche et agressif. Au contraire, on vous attend aussi pour dire que c'est de l'information nécessaire pour les automobilistes, que vous êtes annonceur, voire maire d'une commune, et c'est très important. Le sujet crée des tensions en ce moment au sein du gouvernement. Un décret de la loi Macron prévoit d'autoriser les communes de moins de 10 000 habitants à installer ces panneaux 4x3. Ségolène Royal s'y oppose. Et bien dans ce débat, donnez-nous votre avis au 32-10. Et puis dans 20 minutes, retour sur le premier acte parlementaire de la révision constitutionnelle annoncée par François Hollande après les attentats du 13 novembre. Présentation du texte par Manuel Valls et débat dans un hémicycle très clairsemé. Quelques députés républicains, parmi eux Éric Ciotti, très attaché aux questions de sécurité. Lui devrait voter le texte, mais il est semble-t-il minoritaire dans son propre camp. Il sera l'invité d'RTL Midi sur ces sujets et sur tous les autres. 32-10.
Trafic quasiment bloqué sur l'autoroute A1 entre la Courneuve et Paris. Les VTC convergent vers la place de la Nation. Troisième jour de mobilisation. Alain Vidalis, le secrétaire d'État aux transports, s'impatiente. Des peines allant jusqu'à 3 ans ferme requises contre les gens du voyage qui avaient bloqué l'autoroute à Roye dans la Somme. La justice n'admet pas qu'ils aient voulu faire pression sur elle pour obtenir une permission de sortie à un détenu. Deux jeunes hommes exécutés à Marseille, criblés de balles dans leur voiture sur un parking de supermarché. Nouveau règlement de compte. Dans RTL Midi aussi, un cabinet dentaire à bas coût plombé par son manque d'hygiène. À Lyon, il a dû fermer pour raisons sanitaires. Amoureux des vieilles carrosseries, nous ferons un tour au salon rétromobile, qu'on se le dise, où 120 000 visiteurs sont attendus d'ici dimanche. Pour en parler avec vous tout à l'heure, au 32-10 à 13h30, que vous soyez collectionneur ou bricoleur, le directeur du salon, François Melsion. La météo, les vacanciers de la zone B, ceux de Marseille, Caen, Strasbourg, encore Lille, ont de quoi se réjouir. Valérie Quintin, la route sera sèche pour les premiers départs des vacances d'hiver.
Oui, surtout en allant vers le sud. Pour l'instant, on a un temps très ensoleillé au sud d'une ligne entre Bordeaux et Grenoble. Les éclaircies vont remonter jusqu'aux portes des Pays de Loire, de la région centre et du Jura. Ça va rester plombé sur les régions les plus au nord sans que ce soit trop mauvais. Il y aura à peine 2-3 petites pluies locales et des températures qui restent très douces partout, comprises entre 9 et 19 degrés des Ardennes au Roussillon.
Et la question du jour sur RTL.fr, on vous demande si les parlementaires doivent adopter la déchéance de nationalité. Eh bien, vous nous dites oui à 71%, c'est très nettement majoritaire. Hein. 22% pour le non, vous pouvez continuer à voter sur RTL.fr. On adore vos messages, hein, vos tweets, hein, c'est le hashtag RTL Midi. Et bien sûr, pour parler, 32-10.
RTL Midi.
Et avant d'évoquer le projet de loi constitutionnelle qui arrive enfin devant le Parlement et la déchéance de la nationalité, gros plan sur deux patriotes. Arlette et Anne-Marie habitent à Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Et après les attentats du 13 novembre, elles ont accroché un drapeau à leur fenêtre. Mais aujourd'hui, le syndic de leur immeuble leur demande de les retirer parce que ça casse l'harmonie de la façade. Eh bien, les mamies font de la résistance.
Je m'appelle Anne-Marie.
Et moi, je m'appelle Arlette.
Il y a de la colère, une colère incroyable. J'ai lu la lettre 3 fois avant de me calmer.
Moi, j'ai vu rouge quand j'ai reçu cette lettre. Il mentionne le drapeau français comme si c'était un oripeau quelconque.
Je dois poster aujourd'hui une lettre à Manuel Valls. Personne n'a le droit de nous interdire de mettre nos couleurs. Et je défends, moi, à bloc, les couleurs de la France.
Le drapeau est là et je le laisserai. Pourquoi je l'enlèverai? Il est chez moi. Regardez, il est tellement discret que vous ne le voyez pas. Il est au balcon. Je suis très contente quand il flotte un petit peu. Je suis ravie. Les gens qui passent dans la rue me font comme ça. Bravo, madame, et tout. J'ai jamais été si félicitée que depuis que j'ai ce drapeau. Alors, je suis contente. Au moins, je suis reconnue. Je suis populaire et reconnue.
Arlette et Anne-Marie, résistantes et avec bonne humeur. Avec Julien Fautrasi, comme elle, vous arborez-vous aussi toujours un drapeau à la fenêtre? N'hésitez pas, témoignez 32-10.
Cela dit, suffit pas d'être patriote hein, pour lutter contre le terrorisme. Le projet de loi de révision constitutionnelle annoncé dans la foulée des attentats du 13 novembre est donc examiné depuis ce matin par l'Assemblée nationale. Manuel Valls a annoncé que l'état d'urgence sera prorogé au maximum 4 mois renouvelables. Et puis concernant la très controversée déchéance de nationalité, eh bien le Premier ministre a mis l'accent sur l'égalité entre les Français.
La déchéance de nationalité est la réponse collective des Français vis-à-vis d'autres Français qui ont choisi de porter gravement atteinte à la vie de la nation. C'est un geste qui marque l'union de tous ceux qui respectent le pacte républicain contre tous ceux qui le brisent. Il est donc logique, essentiel même, de consacrer ce principe à l'égard de tous les Français, qu'il s'applique à tous avec la même exigence.
Principe d'égalité donc entre les Français annoncé par Manuel Valls. Olivier Bosse, vous êtes à l'Assemblée pour RTL, où ce débat très attendu, hein, après 2 mois de discussion acharnée, a été suivi par un hémicycle aux trois quarts vide.
Ah oui, j'ai fait les comptes. Hein. Il y a depuis ce matin à peine une centaine de députés socialistes, une trentaine de centristes, une vingtaine de députés les Républicains et une dizaine d'écologistes dans l'hémicycle. Et quand il n'y a pas de vote, eh bien ils font des allers-retours dans les couloirs. Autant dire que ce n'est pas une grosse ambiance. Je ne sais pas si c'est pour ça que Manuel Valls a choisi de faire court. Son discours d'ouverture a duré une vingtaine de minutes. Le Premier ministre en a appelé à l'unité de la classe politique. C'est ce que demandent les Français, a-t-il dit. Manuel Valls a rappelé aux députés l'image du 16 novembre, cette image du congrès à Versailles où droite et gauche confondues ont applaudi debout François Hollande. Après son discours à lui, eh bien, il a plutôt été applaudi mollement pour le coup. Cécile Duflot pour les écolos a quand même été quand même là pour animer un peu l'Assemblée avec une violente charge contre la réforme constitutionnelle.
J'emprunte ces mots très souvent cités de Montesquieu. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Ni l'état d'urgence, ni la déchéance de nationalité ne requièrent une révision constitutionnelle. D'ailleurs, on voit bien que la gauche, en voulant mettre un adversaire dans l'embarras, a jeté aux oubliettes nos valeurs.
Cécile Duflot a même été applaudie à certains moments par des députés de droite. Elle défendait un rejet de la réforme constitutionnelle. Rejet rejeté, 120 voix contre, 23 voix pour. Dans les 23 qui voulaient faire tomber le texte, il y a notamment deux anciens ministres socialistes, Aurélie Filippetti et Benoît Hamon, et à droite, Nathalie Kosciusko-Morizet.
Olivier Bosse, les frondeurs ont été priés de ne pas s'exprimer aujourd'hui dans l'hémicycle. Mais qu'en disent-ils juste à côté, salle des quatre colonnes, Maxence Lambrec ?
Eh bien, ils accourent devant les micros et caméras pour exprimer leur colère, voir leur émotion, à l'image de Pascal Cherki, député PS de Paris, qui, comme Cécile Duflot tout à l'heure dans l'hémicycle, rappelle l'une des sombres pages de notre histoire.
Moi, ça m'émeut parce qu'on a retiré la nationalité française à mon père, à mon grand-père, à ma grand-mère. C'était Vichy. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Et en plus, cette mesure est inefficace. Le Premier ministre lui-même a dit, elle est inefficace. C'est une réforme de la désunion. Et ben moi, je ne l'accepte pas.
Cette question de la déchéance de nationalité va continuer d'animer les parlementaires au moins jusqu'au printemps, ce qui afflige le leader des frondeurs, Christian Paul.
C'est un jour que je considère comme honteux. On a mis en place un feuilleton interminable qui donne le sentiment de la division. Et je pense que c'est une erreur politique. C'est un poison lent. Le président de la République a toute latitude pour interrompre ce processus. Sinon, ça va continuer. Le Sénat va durcir le texte. Le texte va revenir à l'Assemblée nationale. Il ne sera pas votable pour les socialistes. Et nous aurons collectivement perdu beaucoup de temps.
En effet, le vote solennel devrait intervenir mercredi prochain. Puis le Sénat prendra le relais début mars.
Éric Ciotti des Républicains sera l'invité d'RTL Midi dans un petit quart d'heure. Et nous attendons aussi, bien sûr, vos arguments 32-10. Jean-Marie Le Pen, lui, est favorable à la suppression de la double nationalité. Il explique que ça ressemble un peu à la bigamie dans le mariage. L'ancien président n'est pas convié au séminaire à huis clos du Front National qui a débuté ce matin à Étiole. 3 jours pour préparer l'avenir, changer l'image du parti et s'accorder sur la ligne, en particulier économique.
À Paris et en Ile-de-France, les jours se suivent et se ressemblent. Opérations escargot, manifestations. Les chauffeurs de VTC sont toujours mobilisés malgré une tentative de médiation du gouvernement. Ils considèrent que le gouvernement s'est mis à genoux devant les taxis. Après avoir bloqué durant des heures les abords du terminal 2 de Roissy, eh bien c'est maintenant très compliqué sur l'autoroute 1 entre Roissy et Paris. Et vous y êtes pour RTL, Nicolas Burnance.
Effectivement, les chauffeurs très remontés ont voulu frapper fort. Ils occupent les deux voies de gauche encadrées par les motards de la police. Gyrophares allumés à la hauteur du Stade de France au nord de Paris. Les deux autres voies sont libres, mais cela provoque tout de même de gros ralentissements. Parfois, le convoi s'arrête quelques minutes dans un concours de klaxons. Certains chauffeurs descendent sur la chaussée, se regroupent pour crier des slogans comme Manuel Valls démission, puis ils remontent dans leur véhicule pour continuer leur opération escargot. Alors, l'objectif est de rejoindre leurs collègues stationnés depuis ce matin. Place de la Nation, à une dizaine de kilomètres, mais il leur faudra encore beaucoup de temps pour atteindre le périphérique parisien. Ils ne roulent pas à plus de 20 km/h.
Nicolas Burnand, le secrétaire d'État au transport Alain Vidalis, lui, s'impatiente. Il est au micro RTL d'Éric Vanier.
On ne peut plus accepter ces événements. Il y a des dizaines de milliers de salariés. Et ce n'est pas parce qu'il y a d'un côté 500 taxis ou d'autre côté 500 VTC qui sont sur des positions extrêmes et qui, sachant le poids des images aujourd'hui ou de l'information en direct, vont aller bloquer, que ça doit être révélateur. Et je leur dis, et le gouvernement va leur dire, que c'est fini, c'est terminé. Il ne peut plus y avoir ce genre de mouvement. Le temps est à la discussion et on ne peut pas perturber comme ils le font, alors que ce n'est pas un mouvement massif, c'est trop facile. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut rappeler chacun à la responsabilité, le respect de la loi, le respect de l'espace public et la volonté du gouvernement de poursuivre la discussion.
Voilà, et si vous êtes chauffeur de VTC, ben n'hésitez pas, 32-10, on peut dialoguer avec vous après 13h. 45 milliards d'euros, c'est le déficit commercial pour 2015, en chute de 21% par rapport à l'année d'avant. Mais ce bon résultat est surtout dû à la chute du cours du pétrole qui a allégé la facture énergétique. Les exportations, elles, n'ont progressé que de 4%.
Allez, très courte pause, dans un instant, direction Marseille, deux morts hier soir. Règlement de compte et ce qui ressemble bien à une macabre spirale. A tout de suite.
RTL Midi. Christelle Robière et Vincent Parisot jusqu'à 14h.
Ça s'appelle simplement une exécution. Les corps de deux jeunes hommes ont été criblés de balles hier soir dans leur voiture alors qu'ils étaient en train de manger des hamburgers sur un parking de supermarché. C'est à Marseille. Un nouveau règlement de compte, Étienne Baudu, qui s'inscrit évidemment sur fond de trafic de drogue.
Oui, c'est une exécution froide et ultra-violente. Les deux jeunes victimes, âgées de 30 et 26 ans, étaient assises dans leur petite Peugeot 107 en train de manger leur hamburger acheté un peu plus loin à l'extérieur du centre commercial. Alors, au lieu de rester sur le parking du fast-food, ils se sont garés sur celui du centre qui était pourtant désert à cette heure-là, après 21h. Avait-il un rendez-vous ou bien voulait-il être tranquille à l'abri des regards et des projecteurs ? Alors, guet-apens ou filature, le résultat est le même. Ils n'ont pas eu le temps de sortir. Ils ont été criblés de balles. Selon le procureur, leur corps était extrêmement abîmé, touché à plusieurs reprises à la tête. Toutes les vitres du véhicule ont explosé sous les rafales de Kalachnikov et les balles de fusil à pompe. Règlement de compte sur fond de trafic de drogue, il n'y a guère de doute. Tous deux étaient connus pour ce type de délit. C'est le deuxième règlement de compte à Marseille depuis le début de l'année. L'an passé, le macabre compteur s'était figé à 12 à Marseille, un chiffre qui diminue depuis 2013. Et si l'état d'urgence et la présence de policiers et de militaires sur le terrain semble avoir de l'effet sur la délinquance générale. En revanche, il n'a probablement aucune incidence sur les règlements de compte, estime un enquêteur.
Étienne Baudieu, à Marseille, pour RTL. C'est une pollution visuelle. Les panneaux publicitaires sont encore très nombreux à l'entrée des villes, même si c'est interdit depuis le mois de juillet. Mais un des décrets d'application de la loi Macron pourrait défaire ce que le Grenelle de l'environnement avait fait, et ce, au nom de la relance de l'économie. Encore faudrait-il, Virginie Garin, que Ségolène Royal le signe, ce décret.
Oui, et elle ne le signera pas. Voilà un nouveau casus belli avec Emmanuel Macron. Elle ne le signera pas tel qu'il est rédigé aujourd'hui, car il y a dans ce décret certaines mesures qu'elle juge acceptables, notamment autoriser les panneaux géants à l'extérieur des stades de foot, des panneaux qui peuvent aller jusqu'à 50 mètres de hauteur. L'objectif, là, est de trouver de l'argent pour financer l'Euro 2016. En revanche, pas question pour elle d'accepter une autre mesure qui prévoit d'autoriser des panneaux 4x3 dans les villes de moins de 10 000 habitants. Elle rejoint les associations de défense de l'environnement, c'est pour elle une vraie pollution visuelle. Donc Ségolène Royal souhaite une nouvelle rédaction du décret. Et avant, elle va attendre l'avis du grand public. Elle a lancé sur Internet une consultation pour que les citoyens s'expriment sur le sujet. 44 000 personnes ont déjà répondu. La consultation se termine mardi. Ségolène Royal commencera alors une négociation avec le ministère d'Emmanuel Macron, si elle est encore, bien sûr, ministre de l'écologie.
Bon, si je peux me permettre, un petit conseil à Ségolène Royal. Avant la consultation, quelle écoute, les auditeurs ont la parole dans quelques minutes à partir de 13h, parce que justement il va avoir lieu ce débat pour ou contre ces grands panneaux visuels à l'entrée, même des petites villes, donc de moins de 10 000 habitants. On en parlera avec le président du syndicat national de la publicité extérieure, Vincent Piot, qui sera notre invité. Mais évidemment, on vous attend nombreux, 32-10.
Julian Assange va-t-il pouvoir quitter libre l'ambassade d'Équateur à Londres, où il est réfugié depuis 3 ans? Un comité des Nations Unies considère que le fondateur de Wikileaks est en détention arbitraire, mais cet avis n'est pas contraignant et le gouvernement britannique l'a d'ailleurs immédiatement rejeté. Un cabinet dentaire qui met la clé sous la porte, ça reste rarissime. Eh bien, à Lyon, Dentexia, qui propose des prestations à bas coût, doit fermer pour cause de redressement judiciaire, mais surtout pour des problèmes d'hygiène. Frédéric Perruche, plusieurs patients avaient porté plainte.
Oui, suite à de nombreux signalements de patients et de dentistes, l'inspection mandatée par l'ARS, l'Agence régionale de santé, a motivé la fermeture du centre par de graves problèmes d'hygiène, pénurie de désinfectants, de médicaments d'urgence, stérilisation qui laisse à désirer, risques infectieux mal maîtrisés. Une décision qui ne surprend pas les syndicats de dentistes qui dénonçaient de longue date les dysfonctionnements de ces structures low cost. Marc Barthélémy, leur représentant sur la région.
Le praticien doit raccourcir les temps de travaux de façon à avoir le maximum de patients. Doit justifier d'un chiffre d'affaires double ou triple d'un praticien classique. C'est du travail à la chaîne.
À Dentexia, les prix étaient souvent divisés par deux pour la pose de prothèses, d'implants, mais il fallait payer d'avance. Daniel, retraité, a aujourd'hui l'impression d'avoir été piégé car elle a réglé 6000 euros pour des soins qui n'ont jamais été terminés.
J'ai écouté vous demander la somme complète, mais c'est Noël, j'ai 8 petits-enfants. Comment voulez-vous que je leur fasse des cadeaux? Oui, mais vous comprenez, nous on ne fait pas cher et on veut être payé d'avance. Oui, ça m'a choqué, oui. Bien sûr que ça m'a choqué.
Aujourd'hui, la plupart des 7 centres Dentexia sont fermés. La société est en redressement judiciaire.
Faites-vous confiance au low cost. Vous êtes dentiste ou patient, nous attendons vos témoignages. 32-10. La météo, Valérie Quintin, avec un soleil généreux sur les trois quarts du pays.
Oui, donc on va avoir beaucoup de grisailles quand même sur le nord avec des pluies assez faibles. Très localisé ici ou là, ce sera donc beaucoup plus ensoleillé au sud. Pour l'instant, les nuages s'étendent aux deux tiers nord du pays, mais au fil des heures, quand même, les éclaircies vont remonter vers la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre, la Vendée, voire jusqu'à la Loire-Atlantique et au sud-Bretagne. Restent les températures très douces, 9 à 19 degrés des Ardennes au Roussillon, 13 cet après-midi à Paris, à Lyon et à La Rochelle.
Et ce week-end, ça va décoiffer.
Oui, dès demain matin, ça va bien souffler avec des pluies assez fortes et des rafales de vent jusqu'à 110 km/h en Bretagne. Les vents atteindront 60 à 70 km/h sur le reste de la moitié nord, mais là, avec de belles éclaircies, les pluies vont vraiment rester axées sur la Bretagne demain. On notera juste un peu d'instabilité en seconde partie de journée dans le midi, notamment au niveau du golfe du Lion. Et puis dimanche, ça va s'organiser sérieusement avec des pluies bien soutenues d'ouest en est. Ça va donner de la neige en montagne en abondance des 1000 mètres. Sur le front, des vents légères accalmies dans la journée, très provisoires, puisque ces mêmes vents se renforceront sérieusement dans la nuit de dimanche à lundi.
Merci Valérie.